Nous allons vous parler du Léa Germaine Tillon de Saint-Bel, qui existe donc pour la deuxième année. C'est un Léa qui était là dès le lancement des projets de Léa. C'est un Léa dans lequel deux recherches sont menées parallèlement. Une recherche qui s'appelle JPAL, donc sur les jeux pour apprendre en ligne, et une recherche identité numérique et orientation, donc sur le numérique au service du projet professionnel et de, enfin, d'orientation et professionnelle de l'élève. Que je pilote moi-même. Et je suis devenue récemment la correspondante IFE de ce Léa. Il y a eu un petit changement récent. Je pense que, enfin pour moi en tout cas, c'est un Léa qui rentre tout à fait dans les problématiques et dans les questions qui ont été mises en évidence lors de l'introduction. C'est-à-dire, il ne s'agit pas du tout d'instrumentaliser le lieu d'éducation, mais vraiment de construire quelque chose ensemble. Et le partenariat est assez complet. C'est ce qu'on va vous montrer au travers de notre présentation. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Soler qui va se présenter. Donc, moi, je suis Catherine Oisy, maître de conférence donc de psychologie. Je ne me suis pas présentée à l'IFE, donc, et je suis aussi membre du comité de pilotage des Léa.
Bonjour, Didier Soler, proviseur adjoint du lycée Germaine Tillon. Alors le lycée Germaine Tillon est un lycée d'enseignement général qui accueille 707 élèves qui sont issus, pour la grande majorité d'entre eux, de familles plutôt favorisées. Donc nous sommes dans l'ouest lyonnais, dans une petite commune rurale qui s'appelle Saint-Bel. Nous avons donc deux expérimentations en cours, INO et Climaction, et peut-être l'année prochaine, en tout cas on l'espère, une troisième, Tactileo. Donc nous sommes arrivés avec M. Pestori, le proviseur, à la rentrée 2011. Donc le lycée était tout neuf puisqu'il a fait sa première rentrée en 2008. Et donc nous avons contractualisé avec l'IFE pour devenir Léa. Alors comme le lycée était neuf, il n'y avait pas de véritable projet d'établissement, donc on a dû le construire. Alors on a intégré dans le projet l'innovation pédagogique. Alors comment ? On a une partie générale sur l'expérimentation pédagogique et une partie plus spécifique sur les projets qui répondent à des problématiques de l'établissement. Alors, pourquoi faire apparaître l'expérimentation pédagogique dans le projet d'établissement ? D'abord parce que l'expérimentation faisait partie de l'histoire de l'établissement. Depuis l'ouverture, nous avions un professeur d'histoire-géographie, Madame Jounot, qui travaillait au lycée et qui était déchargé à mi-temps à l'IFE. Nous avions donc deux expérimentations en cours avec des professeurs impliqués et nous souhaitions élargir le nombre de professeurs impliqués. C'est d'ailleurs un des axes de notre contrat d'objectif. On souhaiterait passer de 4 professeurs actuellement impliqués à 10 professeurs en 3 ans. Et on voudrait vraiment insuffler une culture de la recherche et de l'innovation à tout niveau dans l'établissement. Et puis aussi, si on l'a fait apparaître dans le projet établissement, c'est qu'il fallait bien donner des explications à l'ensemble de la communauté éducative, parce que ce n'est pas évident pour les élèves, pour certains professeurs, pour les parents d'élèves, de penser qu'on puisse faire des expérimentations sur nos élèves. Alors voilà comment on l'a expliqué, notre volonté d'expérimenter. Les conditions d'appropriation de la culture étant modifiées sans cesse par les évolutions technologiques et sociales, et la culture elle-même évoluant dans ses formes et ses normes, la recherche et l'innovation sont nécessaires à l'efficacité pédagogique. Alors, on s'est donné 3 axes d'évolution. Améliorer la diffusion des recherches engagées au sein de l'établissement et au-delà. Développer une culture de recherche et d'innovation en matière de pédagogie, mais aussi de pilotage de l'établissement, en collaboration avec des ressources externes, les inspecteurs, les chercheurs et des praticiens divers, et faire du conseil pédagogique une instance privilégiée pour favoriser la réflexion et les échanges en matière de recherche et d'innovation. Alors, voilà pour la partie générale. Et puis, donc, on a des parties spécifiques sur les projets expérimentaux en cours. Donc je vais simplement développer sur INO et montrer en quoi il répond à une problématique du lycée. Donc INO, Madame Loisy et Madame Elie vous l'expliqueront. Donc c'est un travail sur d'accompagnement des élèves sur leur recherche de projets d'orientation. Et donc nous avions, nous, une problématique autour de cette question. Donc au lycée, nous avons deux paliers d'orientation, la fin de seconde avec l'orientation dans les différentes premières. Nous sommes un lycée général, nous n'avons pas de filière technologique et on sait que chaque année, un quart de nos élèves partent dans les filières technologiques. Donc il faut informer les élèves à ce niveau-là, ce qui n'est pas toujours simple. Et puis en fin de terminale, un autre palier d'orientation, on a l'orientation post-bac qui est de plus en plus complexe. On a énormément d'informations, beaucoup de ressources. Et donc, on rencontrait quand même un certain nombre de difficultés, une grande pression des familles sur les élèves qui s'exprimaient par du stress, des phénomènes de concurrence, d'inhibition. Vous voyez bien que certains étaient empêchés bloqués dans leurs recherches, des attentes très fortes, des demandes récurrentes d'informations sur l'orientation. Et puis, on avait une conseillère d'orientation qui était débordée, puisqu'elle n'arrivait pas à accueillir toutes les demandes, et elle n'arrivait pas à assurer un réel suivi des élèves, donc elle ne pouvait apporter qu'une aide ponctuelle. Donc voilà, on avait globalement l'impression que, malgré toutes les informations, toutes les actions, les forums, les conférences, la documentation qu'on mettait en place dans l'établissement, on avait l'impression que ça ne suffisait pas, qu'il fallait encore plus, amener plus aux élèves. Et donc, on a placé... Et puis, une autre attente à laquelle répond INO aussi, c'est une attente de l'institution, puisque dans le cadre de la réforme du lycée, les professeurs doivent assurer, dans des séances de cours qui s'appellent l'accompagnement personnalisé, en plus de séances de soutien et d'approfondissement, des séances d'orientation, de travail sur l'orientation. Et nous, nos professeurs nous ont dit, mais nous, on n'est pas formés. Moi, je suis professeur de mathématiques, je ne peux pas travailler sur l'orientation avec mes élèves. Donc voilà, INO vient répondre à toutes ces problématiques-là. Et d'ailleurs, on a inscrit dans le projet notre volonté qu'à terme, tous les professeurs principaux puissent mettre en place la démarche INO dans le cadre de l'accompagnement personnalisé.
Moi, je dirais très peu de choses sur le projet pour ne pas prendre le temps, mais parce que je trouve que ce que vous avez dit est très, très important et merci beaucoup. On sent très bien comment s'articule le projet INO dans le cadre donc, du projet de l'établissement et comme vous l'avez exprimé dans des attentes plus générales de l'institution, ce qu'on a vécu par ailleurs lors des journées de l'innovation académique et nationale auxquelles nous avons contribué en présentant ce projet. L'idée est bien entendu... est de faire construire aux élèves un instrument dans la durée. Le projet ayant commencé, enfin ayant aussi été expérimenté au collège, même si ce n'est pas le cas dans le Léa Saint-Bel, mais c'est bien de faire construire aux élèves un instrument pour construire son projet. Et on voit bien le manque qui existait dans l'établissement quand vous dites ben, on donne des informations, il y a plein de choses, il y a de l'écrit, il y a des rencontres, etc. Mais cela ne suffit pas. Et les visées du projet INO, c'est bien ça, c'est de faire construire un instrument aux élèves pour s'orienter, un instrument qui peut se prolonger. Alors si vous avez la possibilité de venir la semaine prochaine à la conférence nationale culture numérique, on va montrer comment le projet ensuite se prolonge jusqu'à l'université. Voilà, je dirais que ça, je ne sais pas, c'est toi qui parles.
Voilà, donc...
Alors maintenant, comment ça se passe ?
Comment ça se passe ? En fait, moi, j'ajouterais en fait que l'objectif pour nous, enseignants, c'était que les élèves s'approprient réellement leur projet d'orientation, qu'ils construisent un projet, qu'ils construisent leur projet et que l'orientation soit quelque chose qui se fasse par choix et en connaissance de cause et non plus par défaut, comme c'est malheureusement encore parfois le cas. Donc comment ça se passe ? Les élèves donc, en séance d'accompagnement personnalisé commencent par construire leur outil, le support qui leur servira donc à la fois à construire le projet, à collecter les informations et à mener une réflexion personnelle sur ce qu'ils découvrent. Et donc ils construisent un site, donc nous utilisons pour l'instant l'outil Google Sites. Ils construisent leur site et sur leur site, il y avait donc cette année particulièrement trois parties. Une partie, quatre en comptant l'accueil. Donc l'accueil qui est un petit peu l'endroit où on les invite à réfléchir sur l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes, sur comment utiliser les outils numériques pour contrôler ce qu'on donne à voir de soi, ce qu'on a envie de donner à voir de soi. Et puis, c'est une réflexion qui, parce que INO, identité numérique et orientation, n'inclut pas uniquement l'orientation, même si on a beaucoup axé sur ce volet-là, mais aussi la réflexion sur le contrôle de l'identité numérique, le contrôle de ce qu'on donne à voir de soi, de ce qui apparaît de soi sur l'ensemble des réseaux sociaux que les jeunes utilisent énormément. Donc les autres pages s'appelaient suivant le professeur qui avait proposé le projet aux élèves, mes recherches ou mes activités. Mes réflexions ou mon journal de bord, c'était un petit peu suivant les groupes. Et un dernier volet était consacré à la présentation des filières. Car cette année, en plus de la réflexion sur le projet personnel de l'élève, il y avait un deuxième projet qui était... C'est pas celle-là, c'est pas grave. qui était de faire en sorte que les élèves donc présentent eux-mêmes les filières, les différentes filières à l'issue de la classe de seconde lors de la réunion d'information à l'intention des parents d'élèves, donc au deuxième trimestre. C'est-à-dire qu'ils ont réfléchi non seulement sur les filières qui a priori les intéressaient, sur lesquelles ils avaient déjà un certain nombre d'idées peut-être toutes faites et de projets préalables, mais d'aller à la découverte d'autres filières qui n'étaient pas forcément celles auxquelles ils pensaient, des filières qu'ils ne connaissaient pas, et de faire en sorte de les présenter donc lors de ces réunions en présence de la conseillère d'orientation et des parents d'élèves. Et des résultats de cette recherche, cette réflexion qu'on les a amenés à faire sur des filières qui, a priori, ne leur disaient pas grand-chose, et bien c'est qu'un élève qui était parti, comme beaucoup d'élèves de seconde, sur un objectif première S à tout prix, a découvert la filière STI2D et l'a présentée. Et à l'issue de la présentation, s'est dit « mais en fait... c'est plutôt ça qui me correspond qu'une filière S en fonction de mon profil, de mes résultats. » Donc le travail qui est mené à la fois sur la connaissance de soi, ses capacités, ses aspirations, ses aptitudes et la découverte des différentes filières proposées à l'issue de seconde, finalement c'est un travail qui a permis à des élèves, puisqu'on a aussi des résultats sur des conseils de classe du deuxième trimestre, de faire des vœux provisoires, les fameux vœux du deuxième trimestre, cohérents par rapport au conseil de classe. Et c'était assez surprenant, dans une classe de seconde, de n'avoir que 3 cas de conflit sur 33, enfin de conflit, c'est-à-dire 3 cas où les vœux des élèves n'était pas tout à fait en accord avec ce que le conseil aurait suggéré. Pour 30 élèves sur 33, donc, les vœux étaient cohérents avec ce que le conseil proposait. Donc ça, c'est un premier résultat qui est quand même nettement positif, surtout pour la durée du conseil de classe. aussi. Donc un autre, le projet INO, donc c'est celui qu'on met un petit peu en avant, puisque on a deux projets dans le LEA, mais c'est vrai qu'on met en avant le projet INO parce que cette année, elle était particulièrement sous les projecteurs. Donc il y a une visibilité interne du projet qui a été présentée à l'ensemble des équipes pédagogiques lors de la pré-rentrée en septembre. À nouveau présenté lors d'un conseil pédagogique donc au second trimestre, en présence de l'inspecteur référent de l'établissement. Et là, on a déjà une ouverture. On a une ouverture à l'issue de cette présentation, puisque M. Grousset, l'IPER, nous a demandé si nous pouvions éventuellement faire une intervention dans l'ex-UFM Futur SP en construction. Donc il y a un lien en construction à ce niveau-là. Et puis, au niveau de la visibilité externe du projet, il a été sélectionné pour participer aux Journées nationales de l'innovation, donc au mois de mars à Paris, Et donc, juste avant, était présenté au niveau académique au printemps de l'innovation à Lyon. Et à l'issue, ça n'est pas terminé, puisque à l'issue de ces journées, enfin, ça fait un petit effet boule de neige, qui fait que nous recevons maintenant des demandes de l'Académie de Rouen, par exemple, qui nous a demandé un témoignage sur le projet INO. La semaine prochaine, à la CNEMI, il y aura un atelier aussi orienté vers INO. Bref, il y a une visibilité maintenant, une ouverture vers l'extérieur de l'établissement qui est en cours et qui, je pense, n'est pas terminée encore.
Voilà. Et bien sûr, il y a toute la diffusion scientifique sur laquelle je ne vais pas m'étendre, mais il y a eu aussi un article qui a été coproduit avec donc une des participantes à la recherche qui n'est pas dans l'EA, mais bon, c'est parce que c'était un travail antérieur, qui est paru dans une revue pédagogique Repères pour agir. Moi, je vais revenir à une diapo. On a changé l'ordre, vous voyez, c'est in vivo. Concernant le développement professionnel, donc, c'est quand même une des visées du projet INO, c'est-à-dire qu'on a à la fois l'instrumentation des élèves sur leurs projets, mais c'est aussi, il y a aussi des visées en termes de formation, très nettes dans le projet, puisqu'un parcours de formation performance a été produit, bon, c'était avant Léa, je suis un peu désolée, mais voilà, hein, ça c'est l'histoire de la recherche qui fait que c'est comme ça. Sur la mise en place du projet INO dans les classes, et donc avec la nouvelle équipe, on travaille à la construction de nouvelles ressources pour la mise en place du projet en accompagnement personnalisé. Et puis également, si on regarde au niveau alors plus du développement professionnel des acteurs, c'est la partie supérieure de cette c'est l'image qui se trouve au-dessus, la recherche est fondée, et je trouve que c'est assez intéressant par rapport à toutes les métaphores qui ont été citées tout à l'heure, elle est fondée sur un homomorphisme, finalement, entre ce qu'on attend des élèves et le développement professionnel rendu possible par cette recherche au niveau des enseignants. Les recherches sont donc impliquées les enseignants participent à un bloc collaboratif de la recherche dans le cadre duquel ils partagent les ressources qu'ils produisent, leurs réflexions. Hein, on l'a vu tout à l'heure, c'était très important dans le projet de l'élève. On avait des petits exemples d'élèves. Bon, ils sont écrits par les élèves, hein, donc on est... Niveau vocabulaire, ce n'est pas forcément ce qu'on aurait employé. Mais toutes ces dimensions collaboratives et réflexives, elles existent aussi pour les enseignants qui sont impliqués dans la recherche.